Bonjour et bienvenue, 14h TU, 15h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, une vingtaine de blessés en Israël. Une station de bus a été percutée par un camion à la sortie d'une base militaire. Certains blessés sont dans un état grave. Le chauffeur du camion, lui, a été neutralisé, à suivre dès le début du journal. La réaction du guide suprême aux attaques israéliennes contre des sites militaires de l'Iran. Il ne faut, selon lui, ni les exagérer ni les minimiser. Benjamin Netanyahou lui assure que les frappes ont atteint tous leurs objectifs. En Géorgie, les élections législatives ont été officiellement reportées par le parti au pouvoir. L'opposition pro-européenne dénonce des élections volées. On vote aussi au Japon. Le parti libéral-démocrate au pouvoir pourrait perdre sa majorité absolue à la chambre basse du Parlement. Aux Philippines, le bilan s'alourdit, au moins 110 morts après le passage d'une tempête tropicale. Au moins 24 blessés en Israël, où donc un camion a percuté une station de bus. C'était ce matin à Ramat HaSharon, dans le centre d'Israël, à la sortie d'une base militaire. Selon les services de secours, des blessés dans un état grave ont été pris en charge dans des hôpitaux de la région. Attentat ou bien accident, pas encore de certitude à ce stade. Les précisions sur place de Michel Paul.
Un attentat au camion Bélier contre une station d'autobus, selon la police israélienne. Il s'agit bien d'une attaque terroriste, mais les enquêteurs affirment continuer à vérifier toutes les pistes. Le conducteur du camion a été neutralisé par des militaires sur place. Il s'agit d'un arabe israélien originaire du centre du pays. Sa famille affirme qu'il a perdu tout simplement le contrôle de son véhicule en raison d'une maladie dont il souffrait et que ce n'est pas du tout un attentat, mais bel et bien un accident. À retenir aussi le lieu de cette attaque, face à la base de Glilot au nord de Tel Aviv, la principale base du renseignement israélien. C'est ce site qui a été ciblé par des drones du Hezbollah et par des missiles balistiques en provenance d'Iran le 1er octobre dernier. Ils affirmaient viser le siège du Mossad et de la célèbre unité de guerre cybernétique, la 8200. Les médias ont interrompu la diffusion des cérémonies de la journée du souvenir des événements du 7 octobre, qui est marquée aujourd'hui ici en Israël, pour donner cette information. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
L'armée israélienne est à l'offensive dans le nord de la bande de Gaza depuis le 6 octobre, mais dans le même temps, une reprise des pourparlers paraît possible après la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar. Le chef du Mossad, les services extérieurs d'Israël, devait rencontrer ce dimanche au Qatar son homologue de la CIA ainsi que le premier ministre qatari. Il ne faut ni exagérer ni minimiser l'attaque israélienne sur des sites militaires en Iran. C'est Ali Khamenei, le guide suprême, qui l'affirme sur le réseau social X. Il dénonce un mauvais calcul de la part d'Israël, mais sans rien dire d'une éventuelle riposte iranienne à la riposte israélienne. De son côté, Benjamin Netanyahou, lui, se félicite. Les frappes ont été, selon lui, précises, puissantes et ont atteint tous leurs objectifs. Aux États-Unis, J-9 avant la présidentielle du 5 novembre. À New York, les supporters de Donald Trump ont rendez-vous ce soir au légendaire Madison Square Garden. Dans le même temps, Kamala Harris a prévu de ratisser le terrain à Philadelphie, dans l'est de la Pennsylvanie. Hier, la candidate démocrate était dans le Michigan en compagnie de Michelle Obama. L'ancienne première dame s'est livrée à un discours grave, par exemple sur la condition des femmes en cas de victoire du candidat républicain. On l'écoute.
À tous ceux qui envisagent de ne pas participer à cette élection ou de voter pour Donald Trump ou un candidat d'un autre parti en signe de protestation parce qu'ils en ont assez, laissez-moi vous prévenir que votre colère ne sera pas sans conséquence. Si nous ne remportons pas cette élection, que ce soit votre femme, votre fille, votre mère, toutes les femmes, nous deviendrons les victimes collatérales de votre colère. Alors en tant qu'homme, êtes-vous prêt à regarder dans les yeux les femmes et les enfants que vous aimez et à leur dire que vous avez soutenu cette attaque contre notre sécurité ?
Michelle Obama au meeting de Kamala Harris hier dans le Michigan. En Géorgie, les élections législatives ont été officiellement remportées par le parti au pouvoir, le rêve géorgien. La coalition européenne a dénoncé des élections volées et refusé de concéder sa défaite. Défaite qui éloignerait la petite république du Caucase d'une adhésion à l'UE et la rapprocherait de de Moscou. Quant aux observateurs internationaux, ils ont dénoncé aujourd'hui des pressions sur les électeurs ainsi qu'un recul de la démocratie. En Bulgarie, les élections législatives se tiennent ce dimanche. Les Bulgares se rendent aux urnes pour la 7e fois en 3 ans. Ce pays d'Europe de l'Est est plongé dans une impasse politique, sans précédent. Au fil des scrutins, les partis n'ont pas réussi à former un gouvernement et les rares coalitions qui ont vu le jour ont été éphémères. Ces élections ne devraient pas faire exception aux yeux d'un spécialiste de la Bulgarie, Romain Lequignou, interrogé par Margot Ratezic.
On voit que ces 7e élections consécutives anticipées en 3 ans ne sont pas vraiment porteuses d'espoir pour la simple et bonne raison que les sondages sur lesquels on peut compter ne offrent pas vraiment de perspectives différentes. C'est-à-dire que les rapports de force semblent les mêmes. On ne devrait pas changer beaucoup en termes de sièges, en termes de pourcentage pour les partis impliqués par rapport aux dernières élections. Il y a une exaspération de la population, de la société. Les électeurs sont de plus en plus rares dans ces élections. Là, on est autour de 30%. On attend potentiellement même moins de participation pour ces 7e élections. On a une succession de gouvernements technocratiques entre les différentes élections. On a des gouvernements qui ont été mis en place, qui sont restés très peu longtemps. C'est-à-dire qu'on n'a pas de réforme, on n'a pas de grands projets, il n'y a pas de grandes décisions.
Romain Lequignou du Centre de réflexion Eurocréative.
RFI.
On votait aussi au Japon ce dimanche, élection législative. Le Parti libéral-démocrate, Parti conservateur, dirige le pays presque sans interruption depuis 1955. Il pourrait perdre sa majorité absolue à la chambre basse du Parlement, du moins selon des projections peu après la fermeture des bureaux de vote. Direction maintenant les Philippines. Après le passage de la tempête tropicale Trami, on déplore au moins 110 morts. Les secouristes sont à pied d'œuvre. Ils tentent de retrouver une trentaine de personnes portées disparues à la suite d'inondations provoquées par des pluies torrentielles. Jeanne Richard.
La tempête Trami s'est abattue sur l'île principale de Luçon dès jeudi. Les pluies intenses ont entraîné des crues qui ont ravagé des centaines de villages dans le nord du pays et le déplacement de près d'un demi-million d'habitants. Au moins 100 personnes sont mortes, mais un bilan plus lourd est possible dans les jours à venir, car les sauveteurs peuvent désormais atteindre des endroits auparavant isolés, selon le Bureau de la Protection Civile. À 36 ans, Reynaldo De Jucos raconte avoir perdu sa famille dans un glissement de terrain dans la province de Batangas.
J'appelais les noms de ma femme et de nos enfants sans arrêt. Puis j'ai vu une jambe et j'ai crié « À l'aide ! Ma famille est là !» Je me suis mis à creuser, j'ai trouvé ma femme et mon plus jeune en position d'allaitement. Puis j'ai trouvé mes deux garçons, puis ma fille, puis mon dernier fils.
Ils veillent désormais devant leur cercueil. Les Philippines sont régulièrement touchées par des tempêtes ou des typhons, faisant chaque année des dégâts et des dizaines de morts. Mais selon les experts, les tempêtes dans la région Asie-Pacifique se forment de plus en plus près des côtes, s'intensifient plus rapidement et durent plus longtemps sur la terre ferme en raison du réchauffement climatique.
Jeanne Richard, nouveau drame de l'immigration dans la Manche entre l'Angleterre et la France. Un migrant de nationalité indienne est mort ce matin lors d'une tentative de traversée. La préfecture du Pas-de-Calais rapporte que son embarcation en très mauvais état s'est dégonflée immédiatement après son départ. Ce décès vient s'ajouter à 2 naufrages mortels ces 10 derniers jours. Et c'est une illustration, une de plus, des conclusions d'un rapport publié au Royaume-Uni par le ministère britannique de l'Intérieur. Correspondance de Thomas Arms.
Rien que ce vendredi, les autorités britanniques comptaient 424 nouvelles arrivées de migrants qui débarquaient sur les côtes anglaises. Au total, en 2024, 29 578 personnes ont traversé la Manche, soit 141 personnes de plus que l'an dernier. Malgré les politiques pour empêcher les traversées, les arrestations de passeurs, les saisies de matériel, les gangs derrière le trafic d'humains que le nouveau gouvernement à Londres voulait démanteler sont toujours bien actifs, selon Robert Jenrick, l'un des deux candidats pour prendre la tête du Parti conservateur britannique, les travaillistes se sont confrontés à la réalité et leur plan d'écraser les gangs est en déroute. Les traversées, principalement menées depuis le nord de la France sur des petits bateaux pneumatiques, sont risquées. Cette année, 56 personnes sont mortes noyées quand leur embarcation a chaviré ou coulé, contre 12 en 2023. Thomas Harms, Aberdeen, RFI.
Allez, football pour finir. En Espagne, le Classico a tourné à la démonstration pour le FC Barcelone. Très facile vainqueur hier soir du Real Madrid sur la pelouse du Bernabéu. Score final 4-0. Le championnat de France a lui aussi son classique. L'Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain ce soir au stade Orange Vélodrome. La confrontation s'annonce plus indécise que les précédentes au MPSG. Coup d'envoi à 19h45, temps universel. Dans un instant, les bonnes pulsations du monde.